Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Ma stata forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Venose fattifisso. Come fattifisso?
Bonjour et bienvenue à Cinémascope pour le numéro 2 de la saison. Cinémascope, c'est la belle équipe, la fine équipe, avec bien sûr derrière les manettes, Sylvain. Bonjour Sylvain.
Salut.
Aux informations, eh bien c'est Clara qui a travaillé et descendu dans la mine pour remonter toutes les infos sur les écrans de notre région et je suis accompagné en studio pour parler des films que nous pouvons voir d'Alexis du Cinéma des Vences.
Bonjour à tous.
Voilà, et de Véronique de la Maison de l'Image.
Bonjour à tous.
Olivier, votre serviteur, pour parler essentiellement de quatre films, c'est ceux sur lesquels nous allons dérouler un petit peu, tout en profitant pour parler des collatéraux, donc le roman de Jim, qui est à l'affiche depuis un moment au navire, qui l'est encore pour un moment. Billy, le hamster cow-boy, vous connaissez peut-être mon goût pour la discute autour du cinéma très jeune public. Eh bien, Billy, le hamster cow-boy, c'est le cas, c'est le très jeune public. Ensuite, le film de Daniel Auteuil, élaboré en partie avec sa fille. Nous parlerons donc du roman de Jim et du fil, surtout avec Alexis. Et Véronique nous parlera de Billy, l'homme sans cowboy. Et je ne pourrai certainement pas finir cette émission sans évoquer les graines du figuier sauvage de Rasoulov, Mohammad Rasoulov, un film iranien de quelqu'un qui s'est sauvé de l'Iran avant qu'on lui tombe dessus. Une fois de plus, une petite merveille du cinéma iranien, après Tatami, dont nous avons parlé il y a quelques temps, qui reviendra Tatami à l'affiche la semaine prochaine au navire. Donc, beaucoup de raisons de parler des graines du figuier sauvage, qui est en soi un film tout à fait exceptionnel. En attendant, je vais essayer de ne pas être trop fastidieux, mais en même temps, vu la qualité des programmations, je suis un peu obligé d'être énumératif et d'évoquer en 5 points des choses qui se passent dans notre région. Donc, vendredi 4 octobre, voilà, je prends de l'avance, je prends un peu mon élan pour que vous puissiez gérer vos agendas. Vendredi 4 octobre, à Montpezat, un documentaire sur le complexe hydroélectrique de Montpezat qui sera présenté par un ingénieur compétent. Je pense que c'est aussi une façon de vivre dans notre territoire. Donc vendredi 4 octobre, un documentaire à Montpezat sur le complexe hydroélectrique de Montpezat. Au cinéma, les Quinconces de Valls, la désormais traditionnelle série d'opéra enregistré au Metropolitan Opera de New York, rien que ça. Alors si vous allez sur le site du Metropolitan Opera de New York, vous avez une petite recommandation, skip the lines and spend more time in the Metropolitan Opera, ce qui veut dire sauter les fils et passer plus de temps au Metropolitan Opera. Eh bien il y a une autre solution, c'est d'aller à Vaches-les-Bains au Quinconce à partir, donc ça va être 8 samedis, et ça commence samedi 5 octobre avec les contes d'Offenbach, n'est-ce pas, ça sera la première projection. Voilà, pour le Metropolitan Opera, vraiment pour les amateurs d'opéra, je pense que c'est une occasion assez extraordinaire. Au Vivare à Privas. Le Vivare à Privas se met au diapason du Photofestival de Privas, qui se déroule depuis ce week-end jusqu'au 5 octobre. Vous avez, je crois, quelque chose comme une dizaine de points d'exposition de photographie. le cinéma, le Vivarais de Privas s'associe à ce festival de photos en diffusant deux films, deux photographes aussi, deux films extraordinaires que nous avons vus ici à Aubenas par le passé. La famille Asada de Ryota Nakano, qui nous raconte l'histoire d'un jeune photographe japonais, Ryota Nakano, qui est mis à la photographie très jeune par son père, qui lui offre un petit astigmatique comme ça, et puis qui décide de se lancer dans la photographie en photographiant sa famille dans des scènes improbables, et qui ensuite ira faire de la restauration de photographies sur le site de Fukushima, enfin du tsunami. Sur le site du tsunami, il va aller récupérer les photos de famille et les restaurer et les mettre et lui faire lui-même de la photographie. C'est un film assez extraordinaire parce que ça montre ce rapport intime de la photographie et du cinéma, et évidemment. Et puis Visage Village d'Agnès Varda et JR. La famille Asada, c'est mardi 1er octobre à 18h30. Visage, Villas, Agnès Varda et JR, c'est vendredi 4 octobre à 18h30. Je pense qu'Alexis, dans la préparation de l'émission, tu nous avais parlé d'un autre film de JR dans une prison en Californie.
Effectivement.
Tu peux nous en dire deux mots?
Oui, alors c'est un film réalisé donc par JR qui s'appelle Théa Chapi. Qui a pu être diffusé en juin, en fait, à partir de juin, dans les cinémas en France. Et c'est vraiment une œuvre qui allie art au niveau de la photographie, peinture et même collage. En fait, c'est comment l'art peut avoir une espèce d'effet de rédemption envers les prisonniers. Et c'est vraiment une œuvre sensible. Moi, personnellement, les spectateurs qui ont vu le film, on n'est pas ressortis les mêmes après. Voilà.
Ouais, tout à fait. C'est aussi donc l'effet que fait le film d'Agnès Varda et JR, où il photographie les gens dans leur village, fait des agrandissements énormes et placarde les visages sur les bâtiments des villages. Et effectivement, ça nous donne un regard renouvelé sur les gens. Donc là, en l'occurrence, des prisonniers en Californie dont les portraits vont être collés dans la prison, hein, c'est ça,
c'est ça,
dans le cours de la prison. Voilà, donc le Vivarais à Privas, autour du photofestival, deux films, La famille Asada, mardi 1er octobre, et Visage Village, vendredi 4 octobre. Quatrième point, Le Regain, Auteuil, vous savez que c'est un cinéma dont on parle assez souvent ici. Le Regain Auteuil s'associe au réseau de bibliothèques du Teil, réseau de bibliothèques qui fabrique un festival qui donne l'eau à la bouche. C'est octobre en BD, ça commence samedi 5 octobre. Et à cette occasion, Le Regain du Teil va projeter le samedi 5 octobre trois films. Un à 16h30, il s'agit de l'aventure des Marguerites de Pierre Corré. Nous ne l'avons pas vu ici. La fine équipe est pas si fine que ça quand même, pas exagéré. Nous ne l'avons pas vu, mais c'est un film dont l'histoire accroche énormément. Marguerite, une adolescente de 13 ans qui vit en 42, rentre dans une malle et se retrouve en 2019 face à Margot, qui a le même âge qu'elle, et elle commence à échanger sur, en l'occurrence, en particulier, 42, sombre moment de l'histoire européenne, le papa de Marguerite a disparu et elle voudrait que Margot l'aide à le retrouver, si j'ai bien compris. Ça m'a l'air aux petits oignons. À 18h30, c'est un film qui dure un peu plus d'une heure vingt, une heure et demie. À 18h30, Couleur de peau, deux points, miel, de Jung Sik Jeon, coréen, et Laurent Boileau. C'est un film mix de film d'animation et de documentaire, un film que tu as vu, Véronique.
Oui, c'est un film que nous avons diffusé il y a quelques années aux Rencontres. C'est un film qu'on peut recommander à partir de 7-8 ans, mais par contre qui est aussi un vrai bijou pour les adultes, un vrai bijou narratif autour d'une histoire très émouvante. Voilà, moi je le recommande.
Ouais. C'est l'histoire de Jung Sik-yoon. si j'ai bien compris. Et effectivement, du point de vue de la forme et du point de vue du fond, ça paraît s'accorder et être assez, enfin, très tentant. Voilà. Et puis enfin, à 21h, alors là, c'est un classique, troisième film proposé donc par le Regain du Teil, Persepolis de Marjane Satrapi. Et Vincent Parronneau, vous connaissez peut-être la BD Persepolis de Marjane Satrapi, noir et blanc, très inspiré de Maus de Spiegelman, la petite souris de l'époque nazie. Voilà. Et donc Marjane Satrapi s'est inspiré de cette esthétique de Maus de Art Spiegelman pour parler de la révolution iranienne, la révolution islamique iranienne, et la condition évidemment de plus en plus catastrophique faite aux femmes et aux gens en général, à l'intelligence, à la vie en particulier, et à la liberté. On aura l'occasion d'en reparler de cette situation avec Les graines du figuier sauvage et tatami, mais disons que Persepolis de Marjane Satrapi, porté à l'écran par Marjane Satrapi et Vincent Parronneau, c'est également à voir dans cet esprit, avec là aussi un usage de la forme au profit du fond qui est tout à fait... Voilà. Enfin, cinquième point, j'espère que je ne vous ai pas trop abouti d'informations. Cinquième point, la tournée de la Maison de l'Image, naturellement, avec ce soir, à la salle de la Vesprada Tuate, à 20h30, To the Moon. C'est l'histoire de la fabrication d'un documentaire sur On a marché sur la Lune, au cas où... Eh bien, la mission raterait. Je signale que la mission a réussi, à tout hasard. Le mardi 1er octobre, toujours à Thuès, toujours à la salle de la Vesprade, Santoche. Alors, Santoche, on a vu ça au navire par le passé récent. C'est un film de Sandhya Suri. C'est l'histoire d'une femme dont le mari policier est tué. Et il y a une disposition légale en Inde à ce moment-là qui permet à la femme du mari de prendre son poste en l'état, avec même rémunération, même fonction. Et alors on assiste là, bon, c'est un film très très fort, qui est vraiment une pénétration dans la société indienne, et ses paradoxes, ses contradictions, et en particulier cette contradiction d'une femme policière, donc qui incarne l'autorité et qui va devoir faire enquêter et faire jouer l'autorité au milieu d'une société particulièrement patriarcale et machiste. C'est assez étonnant et ça dit beaucoup sur la compromission avec le régime, parfois nécessaire pour sa vie propre. C'est vraiment très très fort. Santoche, oui, Santoche de... Mon sanskrit est rudimentaire, de Sandhya Suri, à la salle Vesprade, mardi 1er octobre, à Thuaits. Voilà. Et puis, toujours, la tournée de la Maison de l'Image, vendredi 4 octobre, vendredi prochain, j'en reparlerai, à Thuaits, salle de la Vesprade, toujours, Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard. On en a dit deux mots la semaine dernière, je ne vais pas m'étendre, mais c'est une fois de plus... un très très beau film de Jacques Audiard où il s'empare d'un film de genre, ici le film de mafia, de cartel, et puis il s'attelle aussi à une question, celle du genre, la transition de genre, et sans en faire des tonnes, au contraire, il renouvelle le genre de la comédie musicale. C'est absolument incroyable. Nous allons passer à notre menu principal. Et nous allons commencer par le roman de Jim dont nous entendons tout de suite la bande-annonce.
Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence ? Je l'aime beaucoup, ton ventre.
T'es gentil.
Qui va s'en occuper de ce loustique ?
Bah, moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras.
Tu marches là.
Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi?
Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Jimmy boit du gin
dans sa Chrysler. Bonsoir.
C'est Christophe.
Jimmy veut lui plaire.
Il
faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils.
Son fils ? Hop !
Ah, mon gamin.
Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe.
Non, t'es obligé à rien.
Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous.
Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. Ah, Jim ?
Ah, Jim.
Ton messager vient de me parler de votre beau projet.
T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer.
On vient à Noël, c'est pas loin Noël. Hein ?
Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. C'est pour le bien de tous.
Pour le bien de tous.
Pour nous.
Pour Jim.
Pour toi.
T'as pas d'enfant ?
Non.
T'as une autre vie ?
Oui.
Raconte.
Allô ?
C'est toi, mon vrai papa.
Le roman de Jim des frères Lardieux, des frères Larieux, je vais y arriver, si, si, avec un peu de chance. Alexis, un coup de cœur d'après ce que tu nous dis.
Un coup de cœur et un coup de cœur des spectateurs aussi. Ouais. Voilà, je tiens à m'exprimer là-dessus, parce que c'est un film touchant, qui explore la paternité, l'amour et l'identité à travers les yeux d'Emeric, qui est incarné par Karim Leclou, qui se trompe très rarement dans ses films dans lesquels il joue. Emeric, qui est un homme en quête de sens après une rupture, qui rencontre Florence, qui est jouée par Laetitia Doche, enceinte de 6 mois. Il s'attache non seulement à elle, mais aussi à l'enfant, à naître, Jim, avec qui il développe une relation profonde, jusqu'au retour du père biologique qui bouleverse cet équilibre fragile. Et donc, ce qui est important à retenir dans ce film-là, c'est que qu'est-ce qui fait un père ? Voilà. Quel est ce lien de sang ? Quels sont les actes, enfin, qu'est-ce qui permet, avec les actes quotidiens du on va dire, du faux père, hein, voilà, et quand un père biologique arrive dans cette vie-là, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit bien que la performance de Karim Leclou, qui est pour moi subtile et pleine de tendresse, rend son personnage attachant, malgré sa passivité face aux événements. Et Laetitia Doche et Bertrand Belin, le père biologique. Voilà, apporte des nuances complexes à leur rôle. Tandis que Sarah Girardot, qui brille dans celui d'Olivia, est une figure réconfortante, pour Emeric. Voilà. Et moi, je trouve que visuellement, le film capture bien l'intimité de cette relation un peu triangulaire et sa lenteur qui permet d'approfondir les enjeux émotionnels, même si certains peuvent être frustrés par le manque de révolte d'Emeric, le film offre pour moi une réflexion poignante sur la famille et les liens affectifs. Voilà ce que je peux en dire en tout cas du film. Et j'ai oublié de préciser en somme que le roman de Jim est une œuvre littéraire de base. C'est une adaptation du même nom, hein, qui est de Pierre Bailly, sorti en mars 2021. Voilà, les réalisateurs ont pris quelques libertés sur le livre, mais c'est quand même assez intéressant justement, et c'est ce qu'on voit quand la différence entre le film et le livre et les importances de scénario entre les deux. Ouais. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur et les spectateurs en sont ressortis ravis. Voilà.
Oui, je pense qu'effectivement, il touche beaucoup notre affect. Moi, j'ai quelques réserves liées au fait que la situation est peut-être un petit peu artificiellement mise en place avec des incidences, hein, l'intervention du père biologique, les conditions dans lesquelles il intervient, le silence de la mère sur la réalité de sa situation, enfin, etc., donne une dimension peut-être un petit peu artificielle, mais enfin, effectivement, il y a une vraie méditation sur la paternité biologique et la paternité, évidemment, culturelle, qui ont toutes les deux leur importance, vraisemblablement. Effectivement, Laetitia Doche, d'ailleurs, qui a réalisé et joué dans la foulée Le procès du chien.
Effectivement.
Qui a en commun avec le roman de Jim de partir d'une situation un petit peu fabriquée, puisque le procès d'un chien pour morsure, c'est quand même pas très courant, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, le procès du chien, avec une réflexion sur la nature animale, la nature humaine, quoi. Voilà, on passe au cinéma plus jeune public avec Billy le petit cow-boy.
Le hamster cow-boy.
Le hamster cow-boy.
Tu sais, papa, plus tard, je veux devenir un super cow-boy.
Wouah ! Ah, ben, en voilà une belle idée.
Découvrez Billy, le hamster cow-boy.
Moi, c'est Billy. Je cherche des copains pour partir à l'aventure avec moi. Yeah. Ah oui, ça me dit bien. Je viens.
Trop bien. C'est une carte au trésor. Hein?
Vivez des aventures palpitantes au Far West.
Aventure, nous voilà.
Attendez-moi, j'ai pas de bras, moi.
D'après les albums à succès de Katharina Valls.
On est des chercheurs d'or, chercheurs d'or.
Mauviettes.
On n'est pas des mauviettes.
Bien dit.
Billy le hamster cowboy. Au cinéma le 18 septembre.
Billy le hamster cowboy, Véronique.
Alors, le Billy le hamster cowboy, c'est avant tout un best-seller de la littérature jeunesse qui a d'abord été adapté en épisode pour la télévision. Donc, oui. Je pense que dans les familles, oui. Billy est déjà bien connu et bien présent.
Celui qui n'a pas de bras, c'est un ver.
Voilà, c'est voilà. Jean-Claude.
C'est Jean-Claude. Je me disais que pas de bras, pas de chocolat. Non, mais c'est un
ver. Non, ouais, mais Jean-Claude, il a un sacré caractère. Oui. Donc, de ces épisodes, donc, ils ont pris 6 histoires dont ils ont fait un film pour donc, le cinéma. Et c'est un film de toutes ces histoires ont en point commun qu'elles invitent toutes à poursuivre nos rêves. Donc, si on devait résumer ça, c'est être petit de taille n'empêche pas de rêver en grand. Et rien que ça, pour les petits et pour les grands, je trouve que c'est déjà pas mal.
Ouais,
donc,
message.
Voilà, nos trois amis inséparables, donc c'est Suzy, Jean-Claude et Billy. Ils ont sur leur route quelques imprévus qui deviennent de suite des grandes aventures. Alors, ils trouvent toujours des astuces ensemble, donc ça parle de solidarité aussi, c'est toujours, et de bienveillance. Pour revenir juste un petit peu sur l'adaptation littéraire, donc l'autrice et illustratrice des albums, Katharina Valls a participé et donc est tout à fait d'accord et fière du projet. Elle a participé notamment à ce qu'on appelle la Bible graphique, c'est-à-dire on part des personnages et on les décline sous différents aspects, émotions, voilà, et qui permettent ensuite aux animateurs de partir sur cette base commune. Voilà, donc ces personnages ont été retravaillés par rapport aux dessins originaux. Il est à noter aussi, et ça c'est, on y est très sensible aussi en tant qu'adulte, quand on va voir ces films pour ce qu'on appelle jeune public, c'est que les décors du film ont tous été peints à la main et à la gouache par une artiste. Donc on trouve vraiment cette patte qui fait un côté onirique, un côté qui invite à se lancer dans ce décor avec ses personnages. Les graphismes sont vraiment très intéressants. Et voilà, donc moi en tant qu'adulte, en tout cas, je passe toujours un très bon moment devant ces films pour jeune public qui ont comme ça une patte artistique quand même très très spécifique et singulière.
Oui, mais ce sont des couleurs qui sont douces, qui sont dans lesquelles effectivement on a envie d'entrer. Il y a le cinéma, alors ça c'est cinéma très jeune public, le cinéma jeune public en animation en ce moment, on en a parlé ici à Cinémascope, c'est Moi, moche et méchant, que j'aurais tendance à recommander aussi, qui est peut-être un petit peu fourre-tout. Il y a beaucoup d'histoires incidentes qui viennent, qui viennent un petit peu, enfin, pour mon vieil esprit un peu sclérosé, ça vient un petit peu m'encombrer. Mais enfin, il y a quand même une ligne droite du début à la fin, et puis il y a les mignons. Et alors ça, moi, je me marre avec les mignons, toujours pareil, il n'y a rien à... Et puis donc, ça c'est Moi, moche et méchant, et puis il y a Vice-versa, deux. Qui est aussi de l'animation. Là aussi, je serais tenté de dire un petit peu de surenchère esthétique, beaucoup d'esthétique un peu hétérogène, qu'on soit dans la vie de l'adolescente, qu'on soit dans l'espèce de tour de contrôle des émotions, ou qu'on soit dans le reste de l'organisme, dans le cerveau. On a des esthétiques à chaque fois différentes qui sont parfois pas très raccord les unes avec les autres. Moi, ça me perturbe un petit peu. Mais le travail sur les émotions, en particulier les nouvelles, en particulier l'anxiété, moi je sais de quoi je parle, l'anxiété orange est très bien rendue. Plus généralement, tu nous parlais, Véronique Orantaine, de la future programmation des rencontres, où une place sera faite à l'animation.
Ah oui, large place à l'animation. Alors, la programmation des rencontres, la liste des films est actuellement disponible sur le site rencontrescinéma.eu, rencontre et cinéma au pluriel.
On va donc commencer ça à fantasmer.
Voilà, il y a déjà la première liste. Peut-être qu'il y a, il y a encore une shortlist un peu cachée derrière. Ouais. Donc voilà, on verra au moment où vraiment on place les films dans ce qu'on appelle la grille de programmation. Et dans ces films, effectivement, donc il y a une part jeune public, avec déjà 12 films prévus, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Et voilà, j'ai une affection aussi pour ces films qui s'adressent aussi à un public adulte. Hier, j'ai eu la chance au Festival de Montélimar de l'écrit à l'écran, de découvrir le dernier film de Michel Hazavanicius que nous allons avoir aux rencontres, La plus précieuse des marchandises. Et clairement, c'est un film à découvrir à tout âge, à partir de 11 ans, je dirais quand même, 11-12 ans. Mais franchement, les adultes découvraient le cinéma d'animation. Et simplement, je vais vous dire ce que nous expliquait hier Michel Hazavanicius, parce qu'il était présent. C'est que lui, ce film qui a pour thème la Shoah, quand on lui a proposé de le faire à partir d'une adaptation littéraire, ne se voyait le faire qu'en cinéma d'animation, parce que c'était la seule façon pour lui de montrer certaines atrocités liées à la Shoah. Pour lui, la prise de vue réelle aurait été trop violente, aurait été trop impliquante, on va dire, en quelque sorte. L'animation est donc un média très utile pour ça. Dans le même genre, au cinéma, toujours pour avoir peut-être plus aussi de liberté, l'animation apporte aussi cette liberté, nous aurons Skydome 2123, qui est un film avant-gardiste. Et c'est vrai que du coup, avant-gardiste, futuriste...
L'année dernière, on avait eu Mars.
On a Mars Express. De la même façon, ce sont des films qui graphiquement nous emmènent dans un univers... Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, je me sens vraiment, vraiment transportée à des choses qui seraient plus difficiles à faire en prise de vue réelle également. Et par contre, ça reste des œuvres de cinéma, des films, et surtout à voir sur grand écran.
Oui, bien sûr. Et le, effectivement, Mars Express, par exemple, l'animation permet de rentrer dans un monde avec les hommes et les humanoïdes robots. Là.
Tout à fait.
Et ça donne... ça peut paraître paradoxal, mais c'est plus crédible en animation. Du coup, on est plus emporté et loin. Et quand on ressort de Mars Express, on titube un peu quand même. Hein. On se regarde les uns les autres. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, eh ben...
Voilà, donc tout ça, c'était vraiment pour dire ce n'est pas parce que c'est du film d'animation qu'on pouvait appeler avant dessin animé. Ce film d'animation, parce que dans l'animation, il y a beaucoup de techniques, mais en tout cas, pour ces films faits par ordinateur ou faits à la main, en tout cas, c'est vrai que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, mais je pourrai en revenir en parler quand on parlera plus précisément de la programmation. Pour en revenir juste à notre Billy, donc il est préconisé à partir de 4 ans. Il y a beaucoup d'humour et puis ben, les enfants, même s'il leur arrive plein d'aventures, ne s'inquiètent jamais le long du film parce qu'ils savent qu'à la fin il y a une espèce de fin récurrente sur ces épisodes qui est un barbecue de noisettes grillées. Ils se retrouvent tous à la fin autour d'un barbecue de noisettes grillées, donc nous ça nous renvoie vegan, quand même mais ça nous renvoie quand même à un petit Astérix et Obélix qui finissait toujours donc ça
le
fait
festin avec Abraham,
le festin
avec le bar de attaché sous le chêne. Très bien. Comme ça, on a la paix et tout rentre dans l'ordre. Un dernier film, Le Fil de Daniel Auteuil. On s'écoute la bande-annonce.
Bonjour. Il est là, ton père ?
Papa ?
Oui ?
Vous êtes passé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse.
Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident.
Il était dans quel état ?
Nerveux, paumé.
Tu deviens fou ici !
Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni.
Tu veux le défendre ?
Oui.
Ce soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister.
Prouvez votre histoire, madame l'avocat général.
car de preuve, vous n'en avez strictement aucune. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver.
Le sauver, non, mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean?
Pourquoi vous bloquez comme ça?
Parce que c'est mon ami.
Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de chercher, dans la sincérité de leur conscience, les preuves contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction?
Un film un petit peu, comment dirais-je, dans sa forme un peu habituelle, mais avec un thème très fort, on l'a entendu, l'intime conviction et la constitution de preuve. Donc la vérité, hein, au centre du... Et donc un film qui, pour cette raison-là, est très troublant. Hein. Alexis, je te laisse nous expliquer la misère de la vérité.
Effectivement, on l'a passé en avant-première au cinéma des Vences, et c'est vrai que les spectateurs, quand ils sont ressortis de la salle, personnellement, je savais pas trop où j'allais dans ce film-là. Et puis cette fin,
ouais.
J'en dirai pas plus.
Non, bien sûr.
Ça m'a...
C'est troublant. Hein.
Ouais, c'est troublant. C'est troublant et ouais. ça m'a remis le film en contexte. Oui. Et en fait, la réflexion est très longue derrière.
Oui.
Et même éthiquement, on se pose des questions. On a l'impression de toute façon de s'être fait avoir tout le long du film. Voilà.
On s'est fait avoir, oui.
Donc pour expliquer, c'est, voilà, le fil, et c'est très, son titre est très bien résumé d'ailleurs. C'est donc un thriller judiciaire réalisé par Daniel Auteuil, qui nous plonge dans des nuances de culpabilité et d'innocence. C'est inspiré, alors important, inspiré d'une histoire vraie et tiré de récits d'un avocat célèbre, Jean-Yves Mouillard.
Maître Mou.
Maître Mou, exactement. Le film aborde un féminicide dans une petite ville française. Le personnage central, Maître Jean Monnier, joué par Daniel Auteuil lui-même, est un avocat désillusionné qui se retrouve à défendre Nicolas Milik, qui est joué par le grand Grégory Gadebois, accusé d'avoir tué sa femme. Donc l'avocat Monnier est persuadé de son innocence malgré des indices troublants et est confronté à une vérité ambiguë qui se dévoile au fil du procès. Donc le film est salué par sa sobriété et il n'y a pas de fioriture. Je dirais même qu'il est presque filmé comme un documentaire. Alors, on s'approche du documentaire parce qu'on est vraiment filmé à l'humain.
Ouais.
Et dans sa mise en scène et les performances des acteurs aussi, permet en fait cette proximité-là auprès des acteurs. D'ailleurs, Daniel Auteuil et Grégory Gadebois forment vraiment un duo. Pour moi, ils se complètent très bien, en fait. Ouais. On a le...
Et il y a des deuxièmes rôles, voire troisièmes rôles, d'une certaine manière, qui sont très convaincants. Ouais. La membre du jury dans le parking, etc. Des petites apparitions qui donnent un réalisme très fort. Ouais.
Complètement. Ça nous même déboussole, même au niveau de la justice. On voit qu'il se passe des choses... Oui. Intéressante, on va dire. Et donc, le suspense s'est maintenu tout au long, sans tomber dans le sensationnalisme. La lenteur du film permet de mieux explorer les motivations des personnages et de la complexité du système judiciaire. Je vais pas trop en dire plus parce que j'ai vraiment envie de laisser les spectateurs découvrir ce film. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, ce film est un drame judiciaire intelligent et sobre. Où Daniel Auteuil, pour le coup, réalise un de ses meilleurs films à mon goût. Et moi, j'incite vraiment les spectateurs à aller voir ce film-là, parce que c'est un film de procès simple, mais qui va nous bouleverser vraiment à la fin.
Oui, oui, et puis Daniel Auteuil a ce goût, il a déjà tourné des rôles semblables, comme prof de droit par exemple, il a le goût du discours qui habille la vérité ou au contraire la cache, enfin c'est très, très troublant comme tu l'as bien souligné. Je voulais, le temps passe à une vitesse invraisemblable, ça ne devrait pas exister ça. Et mais je voulais absolument, je le disais en tout début d'émission, parler des graines du figuier sauvage. Ce film de Mohammad Rasoulov raconte l'histoire d'une famille iranienne à Téhéran dont le père obtient une promotion. Il devient juge d'instruction, avec en perspective la possibilité de devenir un jour juge du tribunal révolutionnaire, la révolution iranienne islamique dont on parlait tout à l'heure à propos de Persepolis de Marjane Satrapi. Donc, ce juge, il est dans la compromission grave. Et puis, au moment où il est nommé, c'est le début du mouvement Femme, Vie, Liberté. Beaucoup d'arrestations, beaucoup de gens enfermés, interrogés. Et le film raconte, en près de 3 heures, pas tout à fait, mais c'est assez long, le film raconte comment le système de la révolution islamique s'insinue dans la famille de cet homme, ses 2 filles, sa femme, comment les procédés du régime s'invitent dans l'intimité, jusque dans le lit conjugal pratiquement. Et c'est véritablement hors norme et ça donne beaucoup à penser à l'Iran, au cinéma iranien, je pense à Panahi, Taxi Téhéran, Israti. Je sais plus. Voilà, c'est ça. Et puis Tatami, le film sur la judokate qui s'enfuit aussi. Ça donne ce contact, ce frisson, mais réel. Hein, on a l'impression de tutoyer effectivement le mal politique pratiquement absolu, quoi.
Interdit.
Oui. Voilà. Et donc avec évidemment planant la loi de Dieu. Alors effectivement, c'est vraiment, je ne saurais trop inviter nos auditeurs à aller voir Les graines du figuier sauvage. Il s'agit d'une métaphore, et justement d'une métaphore d'un arbre qui pousse en étouffant l'arbre hôte pour le tuer avant de se continuer à se développer. C'est très, très, très prenant comme opéra, une sorte d'opéra filmique intime et politique en même temps. Voilà, je crois qu'il est l'heure de rendre l'antenne avant que Sylvain me fasse une attaque. Merci Sylvain d'avoir réalisé tout ça. Je remercie Clara pour les informations. Je remercie Alexis et Véronique d'être venus nous parler si savamment de cinéma.
Merci.
Bonne
Merci
semaine. Ciao, ciao.